Thierry Henry, avant de quitter pour s'en aller du côté de la Floride, a pris le temps de parler avec les journalistes aujourd'hui dans une vidéoconférence et on peut dire une chose, vive Instagram, parce que c'est là qu'il a pris son information. Le collègue Jérémy Filosa assistait également à cette vidéoconférence et est avec nous. Salut Jérémy!
Salut!
Ouais, vive Instagram, il semblerait qu'il était un peu dans le néant, avait pas d'informations.
Ben, en fait, là, il a confirmé un peu ce que quelques entraîneurs ont mentionné récemment, c'est-à-dire que il ne faisait pas partie des décisions. C'est-à-dire que l'association des joueurs négociait avec la MLS, un peu comme c'est le cas dans la Ligue nationale, puis dans toutes les autres ligues présentement, le baseball majeur. Et les joueurs, les entraîneurs, eux, étaient laissés dans le néant. Donc, il nous a parlé justement de cette facette-là, du fait que c'était vraiment via les médias sociaux qu'il allait chercher son information, à savoir, on est-tu rendu dans la phase 2, dans la phase 3, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Donc, vous allez entendre ça dans le résumé du point de presse, là, qu'on va faire entendre dans quelques instants.
Et il était en forme? Il était prêt? Se sent prêt pour aller là-bas du côté de la Floride?
Oui, lui, il est prêt, bien sûr. Les joueurs aussi. Tu sais, il l'a dit, c'est pas parfait. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va faire avec Thierry Henry, qui portait une barbe quand même pas mal plus longue que celle qu'il portait au mois de mars dernier. Là, je vous dirais qu'elle rendait un bon pouce de long. Là.
Après, c'est le confinement,
ça. C'est ça, il est pas encore passé chez le barbier. Alors, je vous fais écouter un résumé de ce point de presse qui dure environ 6 minutes, là, des 30 minutes qu'il nous a donné. Mais vous allez voir, les moments les plus importants sont tous là. Donc, ça débute tout de suite.
Bonjour Thierry, merci de nous donner le temps aujourd'hui, c'est très apprécié. Thierry, loin de moi l'idée de tenter de vous demander de nous confirmer quelle sera votre stratégie du côté d'Orlando, mais pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance de vous regarder à l'œuvre à Saint-Pete au camp d'entraînement dans le 4-3-3 et aussi le début de saison qui s'est passé plutôt dans un système à 5 défenseurs, pouvez-vous nous donner une idée sur lequel des deux schémas vous avez travaillé récemment? Est-ce que vous avez tenté de relancer un peu le 4-3-3 du camp d'entraînement ou avez-vous repris là où vous aviez laissé là après les 5 matchs du début de la saison? Merci.
On a travaillé sur comment on a fini un peu contre Olympia, sur ce qu'on a fait aussi avant. Donc, c'est pas encore clair exactement comment on va évoluer, mais on a travaillé un peu sur les deux. Donc, pour répondre à la question, Jérémy, on a travaillé sur les deux. Parce qu'on a essayé de retoucher un peu tout avec ce qu'on a pu faire et ce qu'on nous a laissé faire aussi. Donc voilà, on ne sait pas encore comment on va commencer là-bas, mais on a travaillé sur les deux tactiques.
C'est sûr qu'avec une équipe en santé, il y a 25 joueurs qui vont vouloir avoir des minutes et tout ça. Et on sait qu'il y a beaucoup de profondeur cette saison chez l'Impact de Montréal, que ce soit les attaquants, les milieux de terrain et la défensive. Comment vous voyez ça, la façon de gérer les effectifs, là, parce que tout le monde va vouloir jouer dans ce tournoi-là?
Ben, je pense que c'est, enfin, j'espère que c'est en tout cas ce que les joueurs veulent à chaque fois, que ce soit le tournoi ou pas le tournoi, tu as toujours envie de jouer, quel que soit le poste ou la situation. C'est sûr que si tu vas là-bas et on va bien sûr aller là-bas, je pense que les joueurs ont envie de jouer. Maintenant, il n'y a que 11 places sur le terrain, il va y avoir énormément de changements, il va faire chaud, il y aura l'humidité. Peut-être que l'équipe qui va commencer le deuxième match ne sera pas la même que la première, ou voire la troisième. Donc, il y a des joueurs qui seront amenés à jouer peut-être les trois matchs. D'autres non, d'autres ont commencé le premier, pas le deuxième ou pas le troisième. Peu importe, en espérant qu'on aille bien sûr jusqu'au bout, donc il y aura encore plus de matchs. Mais la situation va faire qu'il va y avoir pas mal de changements ou de roulements parce qu'il va faire extrêmement chaud et l'humidité, vous savez très bien, commencer là-bas en Floride, donc ça va pas être évident. Mais j'espère que c'est pas seulement pour le tournoi que les joueurs ont tous envie de jouer.
La question est à savoir, il y a bien sûr toute la notion purement sportive, technique, mais moi je m'interroge sur l'état d'esprit au sein de l'équipe à la veille de s'en aller en Floride, un des États qui vit peut-être ses pires moments en termes de contamination et de nouveaux cas depuis le début de la pandémie.
Le tournoi s'effectue là-bas, la Ligue a pris les précautions nécessaires. Pour l'instant, les joueurs sont bien, donc on verra après comment ça va se passer là-bas. Mais nous, on est en train de se préparer pour jouer un tournoi, quelles que soient les conditions physiques, mentales, qui seront pas évidentes, c'est sûr, comme vous pouvez vous en douter. Mais l'équipe est prête pour pouvoir y aller et se battre et défendre les couleurs du club.
Vous avez énormément d'expérience dans ce genre de tournoi. Vous savez qu'est-ce que ça prend pour bien y figurer, même les gagner. Alors, qu'est-ce que ça prend et est-ce que l'effectif que vous avez sous la main a ce que ça prend pour connaître du succès dans une compétition comme ça?
Bah, déjà, c'est un peu faux quand même parce que ce genre d'expérience, je n'ai pas souvent vécu la manière dont on se retrouve dans ce tournoi. Après, en général, quand tu vas dans un tournoi, tu as un temps de préparation et des matchs amicaux avant d'y aller. Là, on n'en a pas pour les raisons qu'on connaît. Ce n'est pas une attaque, attention. Mais pour les raisons qu'on connaît. Donc voilà, c'est pas évident de commencer un tournoi et que ça soit ton premier match. En général, t'essayes de pas mal de choses, t'essayes des tactiques, t'essayes des combinaisons pour pouvoir voir qui peut jouer avec qui ou pas, ou comment ça peut se passer. Et là, en l'occurrence, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans une situation comme ça, où tu arrives dans le tournoi et c'est ton premier match de compétition.
Ma question est la suivante. Le fait d'avoir été aussi loin du terrain pendant aussi longtemps pour les joueurs, non seulement physiquement, mais aussi au niveau du système. On sait que, tu sais, à Tampa Bay, certains joueurs semblaient avoir de la difficulté avec le système. Le fait d'avoir été longtemps loin, les vieilles habitudes peuvent rembarquer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur?
Personnellement, aucun problème avec ça. C'est juste le où ça devient difficile quand tu t'arrêtes, c'est sur le plan physique. Beaucoup plus, surtout dans la manière on aimerait évoluer, tout simplement. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, c'est vrai, oui, à Tampa, oui, il y avait certaines choses qui ne collaient pas. C'est pour ça qu'on a changé la tactique pour le début de la saison quand on est parti jouer contre Saprissa.
Je veux savoir, il y a plusieurs entraîneurs qui sont pleins d'être un peu, pas pleins, mais qu'ils ont fait le constat qu'ils étaient les derniers informés dans tout ce processus. C'est-à-dire que ça s'est passé de l'association des joueurs et des propriétaires.
Vous connaissez Monsieur Graham?
Monsieur Kilogramme, non.
Non, tu connais pas? Prénom non. Insta.
Instagram, ok, d'accord.
Ouais, c'est là que j'avais mes news, moi.
Ah, bon.
Donc voilà, c'était une petite blague.
Non, mais c'était une bonne blague.
Mais bon, non, je vous ai dit, nous, on s'est adapté à ce qui venait vers nous. Le seul pouvoir, c'est ce que j'ai, c'est sur mon équipe. On attendait les infos que bien souvent j'ai eues par le biais d'Instagram. Donc voilà, ou Pat, qui est souvent sur Instagram, Pat Bernier, qui nous tenait au courant. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui étaient au courant aussi, donc voilà, c'est comme ça. On essaie de s'adapter à la situation des fois.
Il faut être abonné au bon compte.
Est-ce que tu es en phase 1, en phase 2 ou en phase 3? Donc voilà, moi je te l'ai dit depuis le début, je l'ai dit à tout le monde depuis le début, on s'adapte à ce qui vient vers nous. Et pas mal de fois, certaines infos, on les a eues par le biais de Monsieur Graham.
Eh bien voilà, M. Graham est maintenant le relationniste de la MLS. On vient de comprendre ça.
Oui, absolument. Puis c'est comme ça aussi que plusieurs d'entre nous, souvent, apprenons les nouvelles. Même nous, dans les médias, des fois, on n'a pas l'information avant que quelqu'un la véhicule sur les médias sociaux. Donc, disons qu'il n'est pas tout seul là-dedans.
Écoute, Jérémy, avant qu'on se parle des cas positifs là, à Orlando, oui. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis dit peut-être pour informer les gens, avant que l'Impact se dirige du côté d'Orlando, il y a eu deux matchs qui ont été joués quand même en saison pour l'Impact et j'ai revisionné les faits saillants de ces rencontres-là.
Oui.
Je pense qu'il faudra regarder du côté d'Urruti qui avait marqué 3 buts à ses 2 premiers matchs. Dans le premier, 1 but. Dans le deuxième, il avait marqué 2 fois. Et Romel Kyoto également, qui était un nouveau venu, lui qui a marqué dans le premier match une victoire de 2-1 face aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Et dans le deuxième match, l'Impact avait pris les devants 2-0. Par contre, l'FC Dallas est revenu dans ce duel.
Oui.
Écoute, je me souviens que les conversations que nous avons eues à l'époque, c'est tu étais surpris de voir la façon dont Thierry Henry amenait son équipe sur le terrain, amenait sa composition. Crois-tu qu'il va te surprendre encore dans ce tournoi?
Je pense que oui. Je pense que, regarde, il nous a démontré depuis son arrivée ici qu'il veut pas que les gens connaissent son plan. Vous avez entendu sa réponse à ma première question. On a pratiqué les deux types de systèmes. Moi, ce que j'ai aimé de Thierry Henry, c'est qu'il a été vraiment proactif. On a joué 5 matchs préparatoires dans un système 4-3-3. 5 matchs, on va se le dire, assez lamentable, merci. Et sans même avoir eu la chance de pratiquer dans un véritable match un système à 5 défenseurs, il s'est lancé dans son premier match de Ligue des Champions avec un schéma complètement différent qu'on n'avait pas du tout essayé dans les matchs préparatoires. Et ça a surpris l'adversaire et ça a permis à l'Impact de Montréal de remporter cette première ronde contre Saprissa en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Ouais.
Et ensuite de ça, on a vu sur le terrain à chaque match une équipe avec une attitude différente. Une équipe qui attaquait quand elle était à domicile. Une équipe qui défendait lorsqu'elle avait les devants. Donc, moi, j'ai aimé voir les différents styles de l'Impact de Montréal tôt en saison. Et je pense que ça va être la même chose à Orlando.
Il faut se souvenir du brio de Clément Diop pendant ces matchs-là.
Oui.
Il a été tout simplement sensationnel, en espérant que ça puisse se poursuivre.
Voilà, exactement. Et oui, tu as raison de le mentionner tout à l'heure. Le meilleur buteur de la MLS au moment où on se parle, c'est Maxi. Oui, oui, Maxi Urruti, bon, avec ses 3 buts. Il en a marqué 4 toute la saison dernière, soit dit en passant.
Un bon début de saison. Voilà. Bon, ceci étant dit, parlons des cas positifs là, du côté d'Orlando. Il y a des joueurs qui ont testé positif.
Oui, ben écoute, c'est le magazine Third Degree là, dans la région du Texas qui couvre les activités du FC Dallas, qui nous informe que le FC Dallas a 3 cas positifs dans son équipe et on parle de 3 joueurs qui ont testé positif depuis leur arrivée à Orlando. Dallas est arrivé samedi, se sont entraînés dimanche. Dimanche, on a eu 2 cas positifs et lundi, un autre. Ce qu'on ne sait pas, c'est où ces joueurs-là ont-ils contracté le virus. Est-ce qu'ils l'ont contracté à Dallas et ont voyagé avec le virus vers Orlando? Ce qui veut donc dire que potentiellement dans l'avion, ils auraient peut-être contaminé d'autres joueurs de l'équipe qui vont potentiellement tester positif au cours des prochains jours. Ou est-ce que ces joueurs-là ont contracté le virus à Orlando? Ce qui voudrait dire que la bulle n'est pas très, très efficace parce que ce n'est que le début. On est encore à une semaine du début des matchs. Si c'était le cas, ça dit quoi de ce fameux système de bulle de la MLS, là?
J'ai vu des images d'un journaliste qui est sur place présentement et c'est extrêmement sécurisé. Tu dois faire le test dans ta chambre. On t'amène le résultat. Par la suite, tu peux quitter ta carte de presse, te donne accès aux places, mais tu dois la valider par un appareil électronique. Écoute, c'est pas pris à la légère, par contre, du côté de la MLS. Peut-être que c'est pas efficace, mais c'est pas pris à la légère.
C'est sûr là, que là, on doit avoir doublement mis l'emphase sur la sécurité des joueurs. Comme j'ai mentionné, on a changé un petit peu de façon de faire dans l'hôtel. Il y aura personne qui va venir nettoyer les chambres. Les joueurs vont être responsables de leur propre chambre et tout ça. Donc, on veut qu'on évite le contact avec le personnel à tout prix. Je pense pas, Jérémy, qu'il y a un joueur qui a le goût de contracter la COVID puis de se voir isolé dans un autre hôtel et être surveillé par des gens de la santé au quotidien pour voir s'ils font de la fièvre, s'ils sont encore contagieux et quand est-ce qu'ils peuvent revenir au jeu. Il y a personne qui va aller à Orlando pour s'isoler dans un hôtel. Personne. Donc, les joueurs doivent faire doublement attention. Mais de tous ceux à qui on a parlé, de ce qu'ils ont vécu dans leur centre d'entraînement respectif, dans leur ville respective, le protocole, il est quand même très sérieux.
D'autant plus que dans cette situation-là, tu veux pas aller à Orlando pour rester à l'hôtel comme tu l'as mentionné. Tu vas à Orlando pour jouer et essayer de gagner ta caillette, là.
Exactement. Donc, on le sait que si tu gagnes ce tournoi-là, tu as une place officielle à la Ligue des champions pour l'année prochaine. On sait que dès le premier match, on va pouvoir suivre 2 classements, celui du tournoi et aussi celui de la saison régulière parce que ces matchs-là vont compter au classement de la saison régulière. Donc, écoute, ça devrait être quand même extrêmement excitant, surtout avec les 5 changements, là.
Parlons-en justement de la Ligue des champions. On a eu des nouvelles de la part du président de la CONCACAF.
Victor Montaliani a donné une entrevue au réseau One Soccer, qui est le diffuseur officiel du soccer canadien, là, on peut l'appeler comme ça. Et dans cette entrevue, il a dévoilé que dès que c'est possible, donc dès la reprise des activités, potentiellement dès l'année prochaine, la Ligue des champions va prendre de l'expansion. Les gens me font souvent remarquer, oui, on a 16 équipes championnes, mais il y a 35 pays dans la CONCACAF. Comment ça se fait qu'on n'a pas 35 champions? Ben, la CONCACAF veut ajouter des champions dès l'année prochaine. C'est-à-dire que au lieu d'avoir seulement 16 équipes, on pourrait en avoir peut-être une trentaine dans le tournoi, peut-être 32, je ne sais pas. Mais on pourrait avoir le champion d'Haïti, le champion de la République dominicaine, le champion du Panama, plusieurs autres pays qui présentement n'ont pas des champions qui le représentent dans cette ligue-là. Pourquoi? Parce que ça prend des stades qui ont un certain standard pour tenir des matchs de ce type de compétition-là. Et dans certains pays, c'est plus difficile, mais on va mettre l'argent nécessaire dans le projet pour qu'on puisse avoir... Donc, potentiellement, l'Impact, champion canadien, par exemple, pourrait se retrouver dans une série contre le champion d'Haïti. Ce serait pas impossible. Donc, on espère que tout ça va fonctionner. Maintenant, Victor Montaliani, parce qu'il y a plusieurs questions qui lui ont été posées sur les matchs de qualification de la Coupe du Monde, quand est-ce que ça va reprendre? Et il a dit, écoutez, là, la CONCACAF ne peut pas aujourd'hui faire un calendrier et l'imposer aux ligues. Il dit, nous, on doit attendre de voir ce que les ligues font. Une fois que la MLS va avoir établi son calendrier, là, on va pouvoir s'ajuster et dire, bon, ben OK, les trous, on a des trous ici, on a des trous là, on peut mettre des matchs dans ces fenêtres d'opportunités-là. Mais il dit, on peut pas, nous, on n'est pas une ligue. On doit s'ajuster avec les calendriers des ligues et présentement, ben, on ne les a pas. Donc, tant que ça, ce sera pas fait, on n'aura pas les informations à savoir quand est-ce que la Ligue des champions va reprendre, quand est-ce que les matchs de qualification de la Coupe du monde vont reprendre.
Ça devient important quand même parce que les calendriers deviendront de plus en plus serrés avec le temps qui avance. Là, à un moment donné, on peut pas inventer des journées dans une semaine. Là.
Non, écoute, t'as raison. Puis, vous savez, au mois de septembre devait débuter le tournoi, entre guillemets, hexagonal. Le tournoi hexagonal, c'est le tournoi qui mène à la Coupe du monde 2022, mais c'est un tournoi qui est quand même assez long. Et là, ben, Victor Montaliani a dit, oubliez ça le tournoi hexagonal, on n'aura pas le temps de tout mettre ça en place à temps pour qualifier des équipes pour la Coupe du monde 2022. On va trouver un autre format de tournoi moins long qui va, on l'espère, permettre à trois équipes de se qualifier pour la Coupe du monde. On espère que le Canada sera une de ces équipes-là. La CONCACAF possède présentement 3,5 équipes qui participent à la Coupe du monde, c'est-à-dire qu'il y a 3 places garanties, puis il y a un genre de wild card, excusez l'expression, qui va jouer un match suicide contre un pays de l'Océanie. Mais dès la Coupe du monde 2026, où il va y avoir 48 équipes, ben à partir de ce moment-là, le Canada va, c'est-à-dire la CONCACAF va avoir plus de places. Plus de pays qui vont aller à la Coupe du monde. Donc, potentiellement, on passera à 5 ou à 6 pays qui vont se qualifier pour la Coupe du monde. Et là, ben, le Canada sera en excellente position pour se qualifier pour chacune des Coupes du monde à partir de ce moment-là.
Bon, ben, mon ami Jérémy, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. On va suivre Instagram pour savoir qu'est-ce qui se passe côté de la MLS jeudi.
Exactement. J'ai pas besoin de travailler. Moi, j'ai juste besoin de me brancher sur Instagram. Et on va tout trouver mes informations, là.
Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup, Jérémy.
Salut, ça me fait plaisir.